Il est 5h30 à Kinshasa, 4h30 en temps universel. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Afrique Matin, avec vous, le journal d'abord et la paix dans l'est de la RDC qui reste pour l'heure en chantier.
Oui, on attendait hier à Washington un avant-projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Mais nous vous annoncions des discussions difficiles sur RFI et cela semble se confirmer. Les négociations se poursuivent pour remplir l'objectif de paix posé par les États-Unis. Et les États-Unis qui ne sont pas les seuls d'ailleurs dans cette affaire. La France reste engagée, vous l'entendrez. Les combats se poursuivent. Pourtant, au Soudan, de plus en plus de déplacés décident de rentrer chez eux. Ils sont des centaines chaque jour à rejoindre la capitale Khartoum. Reportage dans cette édition. La journée internationale de la liberté de la presse en ce 3 mai, comme tous les ans, les défenseurs de la presse qui s'inquiètent notamment du sort de notre collègue Olivier Monodji, détenu au Tchad depuis près de 2 mois. Un prêtre connu pour ses critiques contre le pouvoir de Tanzanie, agressé violemment cette semaine, le prêtre Charles Kitima. Les États-Unis et l'Union européenne réclament une enquête. Les grands oubliés des travaux d'Antananarivo, reportage dans la capitale malgache qui a accueilli la semaine passée un sommet de la commission de l'océan Indien. Des travaux ont été réalisés à cette occasion, mais les habitants déplorent qu'il n'ait concerné que le centre-ville et non la périphérie, quant à elle délaissée. Après le journal, l'actu sport également, bien sûr, comme tous les jours. Soyez les bienvenus. Le délai d'une semaine est écoulé désormais pour la mise en place d'un avant-projet d'accord de paix. Pourtant, aucune communication hier de la part des délégations de RDC et du Rwanda qui était annoncée à Washington. Une semaine donc tout juste après la signature d'une déclaration de principe sous l'égide de la diplomatie américaine. Les négociations en réalité se poursuivent et le processus semble loin d'être terminé. Mais les États-Unis, je vous le disais, ne sont d'ailleurs pas les seuls engagés dans ce processus. On sait que le Qatar joue un rôle ici aussi, mais beaucoup plus discrète quant à elle. La France est bien présente, Patient Ligaudy, et elle est également engagée.
La France est engagée à plusieurs niveaux dans ce processus de paix entre Kinshasa et Kigali, même si son rôle est parfois moins visible que celui des États-Unis ou du Qatar. D'abord, sur le plan politique, Emmanuel Macron s'est personnellement impliqué à 2 reprises pour tenter une médiation directe entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. D'après ses services, il continue à échanger régulièrement avec eux, mais aussi plus récemment avec le président togolais Faure Gnassingbé, qui représente l'Union africaine. Ensuite, la France est l'un des co-initiateurs du processus de Doha. D'après des sources diplomatiques, le projet de médiation a été au départ porté conjointement par Paris et Doha. Troisième niveau d'implication, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Paris joue ici un rôle central en tant que porte-plume de la RDC, une position quasi centrale à l'ONU. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'en février dernier, la France a porté une résolution adoptée à l'unanimité qui condamne clairement l'offensive de la FCM-23 et la présence militaire rwandaise en RDC. Paris est aussi bien perçu du côté de Kigali qui apprécie l'approche française qui ne privilégie pas les sanctions. Quatrième point, la France siège au sein du comité de suivi international mis en place à Doha pour accompagner les étapes vers un accord de paix.
Les explications de Patient Ligaudy. Un peu moins de 2 ans après son coup d'État contre Ali Bongo au Gabon, Brice Clotaire-Oligui Nguema sera officiellement investi à la présidence aujourd'hui. Lui qui a dirigé la transition et qui a raccroché ses galons de militaire pour remporter très largement l'élection organisée le mois passé. Cérémonie prévue aujourd'hui dans le stade de l'Amitié dans le nord de Libreville en présence de plusieurs chefs d'État dont le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le Bissau-Guinéen Sissoko Embalo ou encore le président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema. Une nouvelle illustration de l'horreur de la guerre qui frappe le Soudan depuis plus de 2 ans maintenant. Au moins 27 civils exécutés à En-Nahud, selon un collectif baptisé Emergency Lawyers. En-Nahud, il s'agit d'une ville dont les paramilitaires FSR ont pris le contrôle dans le centre-ouest du pays. Un point stratégique vers le Darfour, bastion des hommes justement du général Ahmed Tim. Et les FSR ont récemment enregistré des revers. Par ailleurs, l'armée du général Al-Bourhan a repris notamment le contrôle de Khartoum. Et dans ce contexte, même si les combats se poursuivent, de plus en plus de déplacés décident aujourd'hui de rentrer chez eux dans la capitale. Ils sont des centaines chaque jour à faire le chemin en ce moment. Certains s'étaient réfugiés à Port-Soudan, qui fut la capitale temporaire pendant cette guerre, et ils font à présent le chemin retour en train. Sur place, reportage de notre envoyé spécial Gaël Lalex.
La ligne entre Port-Soudan et Atbara est le dernier vestige du chemin de fer soudanais. Avant la guerre, elle se poursuivait jusqu'à Khartoum. Mehdi Ibrahim Al-Khalifa charge ses valises.
Je suis à Port-Soudan en tant que déplacé. J'ai quitté Khartoum, suis passé par Atbara, puis le nord du pays.
Ma maison à Khartoum était très belle. Maintenant, j'ai tout perdu. Mais Khartoum est de nouveau sûr et je rentre pour reconstruire ma vie.
Un enthousiasme que ne partage pas Moudissir Mohamed Al-Hassan. Il retourne à Omdurman, dans la banlieue ouest de Khartoum, mais les nouvelles ne sont pas bonnes.
Il n'y a rien à Omdurman. Pas de sécurité, pas de nourriture, pas d'eau.
Alors pourquoi est-ce que vous y retournez ?
C'est chez moi, c'est là que mes enfants vont à l'école. On va tout recommencer du début, on n'a plus rien.
Les combats qui se poursuivent dans la capitale n'inquiètent pas Daoula Kamal Saadala, qui rentre chez elle accompagnée de ses 6 enfants.
J'ai vu des photos de ma maison, elle est en désordre, mais je ne sais pas si elle est détruite. Si elle a été pillée, tant pis. Je suis restée chez moi le plus longtemps possible, même avec la guerre. Je ne suis partie qu'à cause de mon fils qui a un problème au cœur.
Le train mettra près de 12 heures à parcourir les 500 km qui séparent Port-Soudan d'Atbara. C'est en bus qu'il faudra ensuite rejoindre la capitale. Gaël Alex, de retour de Port-Soudan, Nairobi, RFI.
Une date particulière pour les professionnels de l'information, et c'est le cas tous les ans depuis 1993, car cette année-là, 2 ans après la déclaration de Windhoek signée par des journalistes africains réclamant le pluralisme et l'indépendance des médias, les Nations Unies ont officiellement fait de cette date, du 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. L'occasion pour nous sur RFI de faire un bilan. Après la publication du rapport annuel de l'ONG Reporters sans frontières qui enregistre un recul global à l'échelle mondiale, direction le Tchad notamment, où un dossier interpelle les défenseurs de la presse. Ce dossier, c'est celui de notre collègue Olivier Monodji, détenu depuis près de 2 mois sans charge claire. Une détention opaque et inquiétante selon Yao Noël, président de l'UJPLA, l'Union des journalistes de la presse libre africaine.
Tantôt on parle d'intelligence avec l'ennemi, tantôt on parle de nouvelles inexactes, qu'il soit présenté et qu'on sache exactement ce qui lui est reproché. Et puis, s'il a des charges qui relèvent du droit commun, qu'il soit présenté à des juridictions pour que, tout simplement, le droit soit dit et qu'il bénéficie d'assistance d'un avocat. Les États autoritaires issus du pouvoir militaire, pour ces régimes-là, les journalistes deviennent la cible, pour ne pas dire des ennemis à abattre. Le message principal en cette journée mondiale de la liberté de la presse, évidemment, c'est de laisser les journalistes, pas seulement au Tchad, mais partout, exercer leur métier en toute liberté, car la place d'un journaliste, ce n'est pas la prison, la place d'un journaliste, c'est dans sa salle de rédaction.
Yao Noël, président de l'UJPLA. Des inquiétudes sur la scène tanzanienne à présent, ravivées par l'agression du prêtre Charles Kitima cette semaine, un religieux connu pour ses critiques à l'encontre du pouvoir et ses appels répétés à des réformes électorales. En réaction, l'Union européenne et les États-Unis appellent à l'ouverture d'une enquête, une agression qui survient en tout cas dans un climat politique tendu à 5 mois de la présidentielle, marqué ce climat par une répression des opposants. Récit de Christina Okello.
Alors qu'il rentrait d'une réunion religieuse, le prêtre Charles Kitima a été agressé dans un restaurant près de chez lui à Dar es Salaam. 2 hommes l'ont violemment frappé à la tête avec un objet lourd avant de prendre la fuite. Pour l'avocat Boniface Mwabukusi, cette agression est directement liée à ses prises de parole.
The person who administered that blow.
La personne qui a donné ce coup était un professionnel, quelqu'un de formé, pas une personne ordinaire. Kitima était toujours franc. Il parlait de l'état de droit, de la responsabilité des dirigeants. À mon avis, il a été attaqué pour ce qu'il défend.
L'Union européenne et les États-Unis ont réclamé des explications sur cette attaque. Boniface Mwabukusi exige une enquête impartiale.
Nous nous éloignons de l'état de droit. Il faut agir. Cette enquête ne peut pas être menée par la police ou les services de sécurité. Il faut une commission indépendante, peut-être sous l'autorité des juges. Jusqu'ici, sur les disparitions forcées, on nous a parlé d'enquête, mais elles n'ont jamais abouti. Si rien ne change, il en sera de même cette fois encore.
Cette attaque survient dans un contexte particulièrement tendu, à 5 mois du scrutin présidentiel. Un climat illustré aussi par les cas de l'opposant Tundu Lissou, sous le coup d'un procès pour trahison passible de la peine de mort. Dans ces contextes, hier, l'Église a appelé ses fidèles à boycotter le scrutin si les réformes promises ne sont pas engagées.
Christina Okello, à Madagascar, que reste-t-il après les grands travaux menés tambour battant à Antananarivo? Pendant Quelques semaines, la capitale malgache a arboré des airs de chantier à ciel ouvert pour préparer le sommet de la Commission de l'Océan Indien organisé la semaine dernière. Mais une fois le faste du cérémonial passé, eh bien, ce qu'il reste pour certains habitants, c'est surtout un sentiment d'amertume, manifestement, car si le centre-ville s'est refait une beauté, les quartiers périphériques, eux, sont les grands oubliés. Dans le quartier d'Andavamamb, un reportage de Guilhem Fabry.
Seule une poignée de passages sécurisés traverse le quartier d'Andavamamb, construit sur des marais et systématiquement inondé en saison des pluies. Comme la plupart de ses voisins, Radhav, 23 ans, doit emprunter une passerelle en bois, étroite et instable, au-dessus de l'eau, pour rejoindre sa maison.
Avec mon mari, nous ne pouvons pas sortir tous les deux chercher de l'argent en même temps, parce que sans nous, nos enfants pourraient tomber et se noyer. On devrait d'abord commencer par aménager les bas quartiers, mais ils ont préféré améliorer ce qui est déjà très bien. Le président doit voir ce qui se passe ici. Il a été élu grâce à nous. On a l'impression d'être oublié et exclu.
Monsieur Swav, 71 ans, porte lui aussi un regard très sévère sur les travaux menés récemment autour de l'avenue de l'Indépendance.
Pourquoi un seul homme, Monsieur Macron, vient ici, on fait tout, il mobilise tout, de l'argent, les personnels, les hommes, tout, tout. Il cache notre pauvreté, ça m'affecte beaucoup, hein. C'est de l'hypocrisie.
La maire d'Antananarive, Arlal Ramanantsou, promet que les efforts de rénovation et d'aménagement entamés il y a quelques semaines ne sont qu'un début et que les 6 arrondissements de la capitale en bénéficieront. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
RFI, 6h41 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Restez avec nous, bien sûr, RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem dans un peu plus de 12 minutes. Mais avant cela, notre reportage sur une méthode de soins pour lutter contre la mortalité des bébés prématurés. La méthode mère kangourou. Cela consiste à instaurer un contact peau contre peau entre la maman et son enfant. On ira au CHU de Trècheville, en Côte d'Ivoire. Notre invitée, ensuite, l'autrice Elira Berthaud, qui nous propose une plongée fascinante dans l'histoire en braquant les projecteurs sur un couple souvent méconnu, un cadre des Black Panthers avec une chanteuse sud-africaine anti-apartheid, Stokely Carmichael et Myriam Makeba. Ils se sont installés ensemble en Guinée à la fin des années 60, séduits par une certaine idée du panafricanisme, vous l'entendrez. L'exception culturelle française est-elle menacée par le bras de fer entre les États-Unis et l'Union européenne? On se posera la question dans notre chronique média, mais qu'on se rassure, l'exception sportive de RFI, elle, n'est pas menacée. C'est l'heure du journal des sports, comme tous les jours. Et c'est avec vous, Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Et on commence, une fois n'est pas coutume, ou plutôt comme de coutume, excusez-moi, avec le prix Marc-Vivien Foé. On connaît la chanson maintenant, c'est le trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1, bien sûr, remis par RFI. Et chaque jour, jusqu'au 5 mai sur notre antenne, on propose le portrait des 12 nommés. Aujourd'hui, c'est vous qui vous en chargez justement, Antoine, et vous nous parlez de Moses Simon.
Allez, ce même schéma, on passe très souvent par Moses Simon. Il essaie de rentrer entre deux.
Un classique dans le derby contre Rennes. Contrôle le long de la ligne de touche, dribble, crochet, frappe dans le petit filet opposé. Voilà, du Moses dans le texte. L'attaquant nigérian du FC Nantes qui sort de sa saison la plus complète chez les Canaries en termes de statistiques. 7 buts, 9 passes décisives, série en cours. De quoi en faire un solide candidat au prix Foé aux yeux d'Eric Rabessandratana, le consultant Radio Foot.
C'est un dribbleur, un mec qui percute tout le temps. Il a la vitesse, il a l'intelligence de jeu, il est capable de marquer des buts. Après, voilà, quelque part, le club dans lequel il évolue fait que il y a peut-être un frein parce que quand tu joues dans un club qui essaye de se sauver dans une saison comme ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, sur ses qualités, il y a rien à dire parce que c'est plutôt un bon joueur qui est capable de faire la différence.
Une saison d'autant plus méritoire que depuis sa grave blessure avec le Nigeria, Simon n'est pas à 100% entre petite rechute et douleur. Il aura passé son année à surveiller son physique, rappelle son entraîneur Antoine Comboiré.
Depuis 4 mois, 5 mois, ben, il s'entraîne pas à fond tout le temps. Et c'est bien parce que c'est un garçon costaud, il est toujours présent, il est fort mentalement pour pouvoir supporter ça. Le principal, c'est qu'il soit avec nous jusqu'au bout et qu'il soit performant surtout.
Moses Simon, élément important de la lutte pour le maintien. D'ailleurs, à 29 ans, il pourrait s'envoler vers d'autres cieux après ses 6 saisons au FC Nantes.
Le foot féminin également au programme, Antoine, et Merveille Kandjinga qui vise son premier trophée avec le PSG.
Le Paris Saint-Germain, section féminine en finale de la Coupe de France face à son rival, le Paris FC. Le duel en championnat concerne donc aussi la Coupe. Et Merveille Kandjinga, l'attaquante congolaise de 22 ans, ancienne joueuse du TP Mazembe, arrivée sur les bords de Seine en février, en sera un élément important. La jeune joueuse s'est confiée à RFI sur son envie de soulever un premier trophée.
Je pense que la finale, ça se gagne, ça se joue pas.
on va se battre, on va mouiller les maillots tous ensemble avec les filles. On va faire de bonnes choses, on va rapporter la coupe. On se connaît et à l'entraînement, tout se passe très bien et pourquoi pas gagner la Coupe de France.
Merveille Kanjinga avec Sofiane Amazian. Coup d'envoi de cette finale, 15h, temps universel du côté de Calais, dans le nord de la France.
Le rendez-vous est pris. Allez, on termine avec le Chan et la manche allée des éliminatoires additionnelles.
Dernière marche vers le championnat d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud affronte le Malawi à 13h, temps universel, tandis que l'Algérie, elle, sera en déplacement sur la pelouse de la Gambie à 15h TU.
Et on suivra ça, évidemment, sur RFI. Merci Antoine Grenier, on vous retrouve tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
4h45 en temps universel, on jette un coup d'œil sur l'actualité internationale de ce 3 mai 2025 et ces frappes israéliennes tout d'abord qui ont visé des sites militaires à travers la Syrie cette nuit, plus de 20 frappes, des entrepôts et des sites militaires touchés à Dera près de Damas et dans les régions de Hama et de Latakié selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Par ailleurs, la défense civile de la bande de Gaza, elle, a fait état hier de 42 morts dans des frappes israéliennes également. Gaza sous blocus humanitaire depuis 2 mois et depuis lors, l'ONU appelle sans succès Israël à rouvrir le territoire à l'aide humanitaire vitale pour la population qui est exposée désormais à la famine. Les Australiens qui votent aujourd'hui pour des législatives au terme d'une campagne marquée par le pouvoir d'achat, l'environnement et les droits de douanes américains. Un scrutin qui décidera de l'avenir du travailliste Anthony Albanese à la tête du gouvernement depuis 3 ans. La justice bolivienne qui rétablit quant à elle le mandat d'arrêt pour détournement de mineurs contre Evo Morales. Mandat qui avait été annulé mercredi par une juge. Retisser des liens mère à enfant pour lutter contre la mortalité des prématurés. Notre reportage aujourd'hui, il nous emmène en Côte d'Ivoire où près de 34 000 naissances prématurées sont constatées en moyenne tous les ans. Alors, l'UNICEF et le fonds Muskoka ont lancé il y a 6 ans le programme SMK. 3 lettres qui signifient soin mère kangourou, une méthode inspirée de la nature et du fameux animal australien. Concrètement, au-delà des couveuses habituelles, cela consiste à instaurer un contact entre la mère et son bébé prématuré, corps contre corps, peau contre peau. Et cela donne manifestement déjà de très bons résultats. C'est ce qu'a constaté Marine Janin au CHU de Trècheville, dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan.
Entre les pleurs des bébés et les discussions à voix basse des jeunes mères, l'atmosphère est feutrée dans le service Mère Kangourou. 16 femmes et leurs bébés sont actuellement logés, encadrés et soignés dans cette unité. Parmi elles, Fatima Wandao, 23 ans, porte entre les seins un bébé d'un mois, son premier enfant. L'hôpital a dû déclencher son accouchement avant terme, raconte-t-elle, à cause d'une complication survenue à 6 mois de grossesse.
Il l'a envoyé en pouveuse. Le bébé était trop petit. Je me suis dit, est-ce qu'il va pouvoir m'en sortir? Quand je le voyais, donc, là, il ne me sentait pas trop ça parce qu'elle était trop petite. Puis quand elle est venue ici, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre soin d'elle. Et puis les mamans qui sont ici, ils m'ont aidée.
La méthode est simple, explique l'infirmière Nicole Owo. Garder en permanence les bébés au contact de leur mère grâce à un foulard étroitement noué, comme pour prolonger la grossesse hors du ventre maternel.
On porte les bébés peau à peau à la poitrine des mamans. Et c'est cette chaleur-là qui permet à l'enfant de se développer. Et ça marche. Parce qu'on a les bébés qui viennent à 600 grammes. On les voit aujourd'hui. Ils sont normaux comme les autres bébés.
Le porté kangourou aide l'enfant à se développer, mais aussi la mère à garder un bon état psychologique, car les risques de dépression postpartum sont accentués après un accouchement prématuré. Le docteur Somemé Azieux dirige l'unité Mère Kangourou.
Ça permet à la maman aussi de regagner en confiance. Parce que fait un prématuré, on se culpabilise, on est traumatisé. Donc la mère elle-même, elle voit l'enfant grandir, progresser. Parce que chaque jour, on fait les peser. 5 grammes aujourd'hui, 10 grammes aujourd'hui, demain 20 grammes au fur et à mesure. Et donc, elle sent l'enfant même grandir. Donc quand on atteint le kilogramme, on célèbre.
15 centres de soins Mère Kangourou sont déjà fonctionnels avec l'objectif de doubler ce nombre d'ici 2030. Le gouvernement aimerait appliquer ce programme à l'échelle nationale, encouragé par les bons résultats que souligne Marianne Astirbourg, représentante par intérim de l'UNICEF dans le pays.
Dans ce centre, je crois que pour l'année dernière, on a eu un taux de survie de 99%. 99%, c'est très important. Beaucoup de ces enfants auraient pu décéder. En effet, c'est une question de vie et de mort.
La prématurité reste l'une des principales causes de mortalité infantile. En Côte d'Ivoire, elle est responsable de près de 30% des décès néonataux. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Un reportage sur la méthode mère kangourou en Côte d'Ivoire pour lutter contre la mortalité des bébés prématurés. Un reportage à retrouver, à partager, bien sûr, sur Internet. 6h50 à Paris, on reçoit l'invité de la rédaction Afrique ce matin, Ella Raberto, agrégée de lettres modernes, docteur en littérature. Elle publie un ouvrage sur l'histoire fascinante d'un couple souvent méconnu. Un couple panafricain, Stokely Carmichael, un militant révolutionnaire noir américain, l'un des responsables du mouvement Black Panther, et la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba, engagée elle bien sûr contre l'apartheid. Ils se sont installés ensemble dans les années 1960 en Guinée, et Ella Raberto a donc remonté leurs traces. Elle nous parle de son travail ce matin au micro de Laurent Corot.
Bonjour Ella Raberto.
Bonjour.
Pourquoi Stokely Carmichael et Myriam Makeba viennent-ils s'installer en Guinée en 1968 ?
Parce qu'ils sont en partie pourchassés par la CIA et le FBI, qui ont cette opération Cointelpro de déstabilisation des leaders des droits civiques américains. Carmichael est emprisonné de nombreuses reprises, violemment agressé par la police plus de 17 fois. Et ils décident tous les deux d'accepter l'accueil diplomatique que leur offre Sékou Touré.
Comment est-ce qu'ils sont accueillis à Conakry à l'époque, comme des stars ?
Ils sont absolument accueillis comme des stars. Ils sont accueillis personnellement par André Touré et Sékou Touré, donc le couple présidentiel, et ils vont se mouler dans un univers cosmopolite d'artistes, de militants du monde entier. Ils croisent par exemple Amilcar Cabral, le grand militant du PAIGC, la famille Andrade, et donc ils vont être dans cette atmosphère extrêmement riche et culturelle de Conakry cosmopolite, début des années 70.
C'est une partie de leur vie d'ailleurs dont on parle habituellement assez peu, notamment dans le cas de Stokely Carmichael, dont on connaît plutôt l'engagement aux côtés des Black Panthers. Et pourtant, l'un et l'autre, Carmichael et Myriam Makeba, vont faire une partie importante de leur vie à Conakry.
Oui, tout à fait. C'est pas du tout anecdotique dans leur carrière. Carmichael, il passe 40 ans de sa vie en Guinée. Il va décéder en Guinée en 1998. Et l'ensemble de l'historiographie est assez polarisé par la carrière américaine, par ces années 60. Or, ce que je voulais faire dans cet ouvrage, c'est réafricaniser. C'est deux trajectoires qui ont pris fait et cause pour le socialisme africain, pour la révolution culturelle que voulait faire Sékou Touré. Et il y a eu un branchement intellectuel entre le couple Touré et entre le couple Makeba et Carmichael. C'est-à-dire que ils se sont pris de passion pour ce que Sékou Touré a appelé l'authenticité guinéenne, d'abord pour la musique, puis pour le théâtre, puis tout un pan de la société, qui a coïncidé avec ce que Carmichael défendait dans les mouvements militants, le Black Panther Party ou autres, de Reclaim Our History, réhabiliter l'histoire africaine, la part africaine de l'histoire. Et donc, au-delà de l'amitié qui a réellement existé, c'est aussi une concordance des imaginaires.
Et donc, cette affinité intellectuelle va conduire Carmichael et Myriam Makeba à s'engager pour la révolution guinéenne et l'État parti. De quelle manière l'un et l'autre vont s'engager?
Alors, Myriam Makeba va enregistrer énormément de vinyles dans le label d'État Siliphone, le label guinéen, en poulard, en maninka, en soussou et en français. Et donc, elle va chanter les éloges de Sékou Touré, du panafricanisme révolutionnaire, du socialisme du Parti démocratique de Guinée. Et elle va chanter également à chaque fois qu'il y a des hôtes diplomatiques de marque à Conakry. Dans le protocole, il y avait un concert de Myriam Makeba au Palais du Peuple.
Sékou Samaké dans la voix de Myriam Makeba qu'on entend derrière nous. Cette chanson, Ella Raberto, c'est une chanson à la gloire du président Sékou Touré finalement.
Absolument, elle reprend le modèle de l'éloge en maninka. Sékou, le chef, tu es jeune, tout ce que tu refuses ne sera pas fait. Sékou, je te salue. Donc c'est une manière de chanter ses louanges dans le modèle guinéen qu'elle adopte.
Et Stokely Carmichael, lui, comment est-ce qu'il s'engage justement en faveur de la révolution guinéenne ?
Lui, il arrive en Guinée en étant absolument ravi de pouvoir se mettre au service d'un autre hôte de marque, à savoir Kwame Nkrumah, qui a été destitué du Ghana et qui trouve refuge dans ce Conakry cosmopolite dont on vient de parler. Il veut, dans un premier temps, remettre Kwame Nkrumah en selle, politiquement, d'abord par la guérilla, il se forme, et puis finalement ça ne se fait pas, et il se met à l'étude des textes de Kwame Nkrumah. Et progressivement, il va reprendre le parti parti non étatique panafricain que vient de fonder Kwame Nkrumah à Conakry, qui s'appelle le All African People Revolutionary Party. Même à la mort de Kwame Nkrumah, il va reprendre ce parti et en faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire un parti organisé, transatlantique, en reprenant ses anciens réseaux états-uniens et en faisant un parti dédié au texte de Kwame Nkrumah et au texte de Sékou Touré, dont il s'attelle, si ce n'est à faire la traduction, du moins à faciliter les traductions et les éditions en anglais. Donc il est comme un pont transatlantique entre Conakry et les mouvements militants états-uniens.
Qu'est-ce que cette présence et cet engagement de Stokely Carmichael et Myriam Makeba en Guinée nous disent de la place de cette Guinée des années 70 dans l'Afrique révolutionnaire ?
Elle remet Conakry au centre des cartographies globales des luttes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit que Alger était la Mecque de la Révolution, ce qui est entièrement vrai. D'ailleurs, ils y passent aussi en couple en 1969 pour le grand festival PANAF d'Alger. Néanmoins, il y a également eu plein d'autres villes qui ont été des hubs et vraiment des plaques tournantes, des circulations d'idées, de chansons, de textes et aussi de personnes. Et Conakry a été de ces villes-là et néanmoins, les archives en ont été comme oubliées. Replacer Conakry au centre des imaginaires, c'était un petit peu l'idée de cet ouvrage.
Et Lara Berthaud, merci.
Merci à vous.
Laurent Corot avec Lara Berthaud qui publie donc Un couple panafricain à lire aux éditions Rothbaud Creek. Paris défend souvent l'exception culturelle française et la voilà aujourd'hui l'objet d'inquiétude à l'heure du bras de fer entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est le sujet de notre chronique média ce week-end, Amaury de Rochegonde. Il faut peut-être rappeler de quoi il est question ici.
Oui, l'exception culturelle, c'est ce terme inventé en 94 pour défendre le droit d'un pays à protéger sa culture par des subventions, des mesures de soutien ou des quotas. Si la France a pu défendre son cinéma, ses séries et ses dessins animés, c'est en grande partie grâce à ce dispositif d'exception par rapport au traité de libre-échange. Les œuvres du cinéma et de l'audiovisuel bénéficient de l'aide du CNC, le Centre National du Cinéma. Les diffuseurs sont soumis à des quotas d'œuvres européennes ou d'expression française. Une taxe sur les billets des salles de cinéma finance les films indépendants. Et depuis 2021, les plateformes américaines ont aussi l'obligation d'investir 20% de leur chiffre d'affaires dans la production en France. Ce sont ainsi près de 350 millions d'euros par an qui ont été injectés par Netflix, Disney+, ou Prime Video dans l'audiovisuel et le cinéma français. Or voilà que ce bel édifice pourrait être remis en cause dans le cadre des discussions autour des barrières douanières entre l'UE et les États-Unis.
Car l'administration Trump souhaite revenir sur ses obligations, Amaury.
Eh bien, le 21 février, elle a publié un mémorandum qui dénonce les régulations étrangères et en particulier européennes qui désavantagent les entreprises américaines en taxant leurs plateformes ou en fixant des obligations d'investissement comme le prévoit la directive sur les services de médias audiovisuels. L'administration Trump recommande des mesures de rétorsion douanière et elle est d'ailleurs soutenue dans ce combat par le syndicat des réalisateurs américains et par la Motion Picture Association, le lobby des majors hollywoodiennes et des plateformes qui parlent de pratiques déloyales.
Et la législation européenne est aussi pointée du doigt par les États-Unis.
Oui, deux textes clés de l'Union sont visés, le règlement sur les marchés numériques ou DMA sur les pratiques anticoncurrentielles et le règlement sur les services numériques ou DSA sur la régulation des contenus. Ce sont ces textes qui permettent à la Commission de prononcer de lourdes sanctions qui se chiffrent parfois en milliards d'euros. On l'a vu récemment lorsque Apple et Meta ont été condamnés à 500 et 200 millions d'euros d'amende au titre du DMA, une sanction qui a été décidée sans grande publicité par Bruxelles, qui craint d'envenimer la guerre commerciale avec Washington. Les défenseurs de l'exception culturelle craignent aussi qu'une révision dans un sens plus libéral de la directive sur les services de médias audiovisuels l'an prochain soit l'occasion d'amoindrir les règles au profit des plateformes américaines.
La chronique média, Amaury de Rochegonde, tous les samedis sur RFI. Dans un petit peu plus de 30 secondes, c'est RFI Matin qui débutera avec Julien Coquel-Rohem. Le temps pour moi de remercier Pauline Berthélémy qui était à la réalisation et Pierre Pinto à la rédaction en chef. Et merci à vous également pour votre fidélité. Excellente journée à tous.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Elle a le goût et le parfum du Cambodge et de la cuisine de sa mère. Cette pâte de citronnelle, de galanga frais, de la racine camphrée, de kéfir et de curcuma mêlée. Bhopal la cuisine pour rentrer chez elle à Phnom Penh 50 ans après l'avoir fui. En cuisinant, elle donne voix à ceux qui ne sont plus. Bopa raconte, ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, avec Clémence Denavy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.